Il y eut un bizarre moment de silence, et Paul fut effrayé par ce qu'il vit sur son visage. Ou plutôt, parce qu'il n'y avait pas. Un visage vide. Le néant d'une crevasse cachée dans les plis d'une prairie de montagne. Des ténèbres, où ne poussait aucune fleur, et dans lesquelles une chute pourrait durer longtemps. Le visage d'une femme qui venait de larguer momentanément tous ses ancrages vitaux, tous ses points de repère. Une femme qui non seulement avait oublié le souvenir qu'elle était en train de raconter, mais toute mémoire. Il avait visité une fois un asile d'aliénés, bien des années auparavant, alors qu'il faisait des recherches pour Misery, le premier des quatre ouvrages devenus sa principale source de revenus au cours des 8 dernières années. Et il avait vu ce regard. Ou plus précisément, cette absence de regard. Le mot qui définissait cet état était catatonie. Mais ce qui l'effrayait ne pouvait se définir aussi clairement. C'était en fait une vague comparaison. Il eut l'impression qu'en ce moment, les pensées de la femme étaient devenues comme il s'était imaginé qu'était son organisme. Solide, fibreuse, compacte, sans réseau, sans solution de continuité. Enfin, lentement, son visage s'éclaircit. Impression que les pensées y refluaient. Puis il se rendit compte que « refluer » n'était pas tout à fait le terme exact. Elle ne se remplissait pas comme un étang ou une baïne sous l'effet de la marée. Elle se réchauffait. Oui, elle se réchauffait comme un petit appareil électrique, un grille-pain ou encore un chauffe-plat. J'ai répondu à Tony. « La tempête va vers le sud. » Elle parla tout d'abord laborieusement, comme à demi assommée, puis les mots se mirent peu à peu à jaillir à une cadence normale et à retrouver l'éclat expressif habituel d'une conversation. Mais ses soupçons étaient définitivement éveillés. Tout ce qu'elle disait avait quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu à côté de la plaque. Écouter Annie parler était comme écouter un air joué dans le mauvais ton. Mais il a dit, elle a changé d'avis. « Oh, bon sang, j'ai fait. Je ferais mieux de sauter en selle et de filer. À votre place, je resterai en ville, Mam Wilkes, il a fait. La radio dit maintenant qu'elle va être de première et que rien n'est préparé. » Évidemment, il fallait que je rentre. Je suis toute seule pour nourrir les animaux. Mes voisins les plus proches sont les Reugman, mais ils habitent à des kilomètres d'ici. En plus, ils ne m'aiment pas. » Elle lui jeta un regard aigu en disant cela. Comme il ne réagissait pas, elle fit tinter la cuillère contre le bord du bol. « Fini ?»« Oui, je n'ai plus faim, merci. C'était très bon. Avez-vous beaucoup de bétail ?» Parce que, pensait-il déjà, cela signifie que vous devez avoir quelqu'un pour vous aider, si c'est le cas, au moins un journalier. Aide. Tel était le mot de circonstance. Du moins, cela lui paraissait-il ainsi, car elle ne portait pas d'alliance à la main.
Pas beaucoup, admit-elle. Deux vaches, une demi-douzaine de pondeuses, et Misery.
Il cligna des yeux. Elle rit.
Vous allez penser que ce n'est pas très chic de ma part de donner à une truie le même nom que celui de la jeune femme belle et courageuse que vous avez créée. Mais je le lui ai donné sans me moquer.
Après quelques instants de réflexion, elle ajouta : elle est très gentille, cette bête. Annie Wilkes plissa le nez et pendant quelques secondes devint une truie, y compris jusqu'au poil follé qui lui poussait au menton. Elle se mit à pousser des grognements de cochon. Paul la regardait, estomaqué. Elle n'y fit pas attention. Elle avait une nouvelle absence.
Son regard était devenu vague, obscurci. Il n'y avait dans ses yeux que le double reflet de la lampe de chevet, affaiblie et morne. Finalement, elle fut prise d'un léger sursaut et dit « Je parcourus environ 8 kilomètres, puis la neige se mit à tomber. Elle tombait dru. C'est toujours comme ça ici, une fois que ça commence. Je me suis mise à avancer lentement, phare allumé, et c'est alors que j'ai vu votre voiture renversée dans le fossé. » Elle lui jeta un regard désapprobateur. « Vous n'aviez pas vos phares ?»« J'ai été pris par surprise, » se défendit-il, se rappelant seulement maintenant qu'il avait été pris par surprise. Il ne lui était pas encore revenu à l'esprit qu'il était aussi fin sous. « Je me suis arrêté, » reprit-elle. « Si j'avais été dans une côte, je ne l'aurais peut-être pas fait. Pas très charitable, je sais, mais... il y avait déjà plus de 8 cm de neige sur la route, et même avec un 4x4, on n'est jamais sûr de pouvoir repartir en côte une fois qu'on a perdu son élan. C'est plus simple de se dire « Oh, ils sont probablement sortis, quelqu'un les a pris », et ainsi de suite. Mais c'était en haut de la troisième colline, après chez les Reutemann, et c'est plat sur une certaine distance à cet endroit-là. Alors je me suis arrêté, et j'ai entendu grogner dès que je suis sorti. « C'était vous, Paul. » Elle lui adressa un étrange regard maternel. Pour la première fois, cette pensée vint faire surface, parfaitement limpide, dans l'esprit de Paul Sheldon. « Je suis dans le pétrin ici. Cette femme n'est pas normale. » Pendant une vingtaine de minutes, elle resta assise à côté de lui dans ce qui était peut-être une chambre d'amis et continua de parler. Tandis que son organisme digérait la soupe, la douleur se réveilla dans ses jambes. Il se força à se concentrer sur ce qu'elle disait, sans y réussir complètement. Son esprit avait bifurqué. D'un côté, il l'écoutait raconter comment elle l'avait sorti de ce qui restait de sa Camaro 74. Ça, c'était le côté avec les violents élancements douloureux, les deux poteaux déchiquetés, commençant à faire de brèves apparitions entre deux vagues, tandis que la mer se retirait. De l'autre, il se revoyait au Boulderado Hotel, finissant son nouveau roman, qui, merci Seigneur pour tes petites grâces, ne mettait pas en scène Misery Chasten. Il avait toutes sortes de bonnes raisons de ne pas écrire un nouveau Misery, mais il y en avait une qui l'emportait sur les autres, et elle était en béton armé. Misery, merci Seigneur pour tes plus grandes grâces, était finalement morte, passée de vie à trépas 5 pages avant la fin de Misery's Child. Pas un œil n'était resté sec dans la maison lorsque s'était produit le tragique événement, pas même celui de Paul, si ce n'est que les larmes qui avaient coulé des siens avaient été le résultat d'un fou rire hystérique. En mettant l'ultime touche à son nouveau livre, un roman contemporain qui racontait l'histoire d'un voleur de voiture, il s'était souvenu du moment où il avait tapé la dernière phrase de « Misery's a Child ». C'est ainsi que Yann et Geoffrey quittèrent ensemble le cimetière de Little Dunthorpe, se soutenant mutuellement dans leur chagrin, déterminés à trouver une nouvelle raison de vivre. Il avait été pris d'une telle hilarité en écrivant ces mots qu'il avait eu des difficultés à frapper les bonnes touches et dû faire plusieurs corrections. Merci Seigneur pour le ruban de correction de la bonne vieille IBM. Il avait écrit fin en dessous et s'était mis à cabrioler dans la pièce, cette même chambre du Boulderado Hotel, en hurlant « enfin libre, Dieu Tout-Puissant, je suis enfin libre, cette stupide conne a enfin raccroché !» Le nouveau roman s'intitulait « Fast Cars » et il n'avait pas ri en l'achevant. Il était simplement resté assis devant sa machine à écrire pendant un moment, songeant « Tu viens peut-être de gagner le prochain Grand Prix du Livre d'Amérique, mon vieux. » Il avait alors décroché. Une petite ecchymose à la tempe droite, mais ça n'avait pas l'air de grand-chose. C'était vos jambes. Je l'ai vu tout de suite, même avec la lumière qui commençait à baisser, que c'était vos jambes. Le téléphone et demandait qu'on lui monte une bouteille de Dom Pérignon. Il se souvenait l'avoir entendu en faisant les 100 pas dans cette chambre où il avait terminé tous ses livres depuis 1974. Il se souvenait d'avoir donné un billet de $50 en pourboire au garçon d'étage avant de lui demander s'il avait entendu les prévisions de la météo. Il se souvenait de l'expression joyeuse et rayonnante du jeune homme lorsqu'il lui avait dit que la tempête qui se préparait devait en principe obliquer vers le sud, vers le Nouveau-Mexique. Et il se souvenait du froid de la bouteille, du léger bruit produit par le bouchon qu'il avait dégagé délicatement. Il se souvenait du goût sec, acide et âpre du premier verre. Puis d'avoir ouvert son sac de voyage et regardé son billet d'avion pour New York. Il se souvint soudain d'avoir décidé sur un coup de tête. Qu'il valait mieux que je vous ramène tout de suite à la maison. J'ai eu du mal à vous tirer jusqu'à la camionnette, mais je suis une femme solide, comme vous l'avez sans doute remarqué. Et j'avais un tas de couvertures à l'arrière. Je vous ai enroulé dedans, et même à ce moment-là, alors qu'on n'y voyait plus grand-chose, j'avais l'impression de vous connaître. Je me suis dit que peut-être... d'aller sortir la vieille Camaro du garage de l'hôtel et de partir comme ça, vers l'ouest, au lieu de prendre l'avion. De toute façon, qu'est-ce qu'il en avait à foutre de New York ? Retrouver l'appartement vide, sinistre, accueillant comme une porte de prison, ayant peut-être été cambriolé. Ouais, rien à foutre, avait-il pensé en reprenant une coupe de champagne. Go west, young man. Prends la route de l'ouest, jeune homme. L'idée était assez folle pour tenir debout. Sans rien emporter, sinon quelques affaires de rechange et le sac que j'ai trouvé. Je l'ai pris aussi. Mais on aurait dit qu'il n'y avait rien d'autre, et j'avais peur de vous voir mourir. Alors j'ai fait démarrer la vieille Bessie. Manuscrit de Fast Cars. Et puis filé vers Vegas ou Reno, ou la Cité des Anges. Il se souvint que l'idée lui avait paru un peu ridicule au début. C'était le voyage qu'il aurait pu imaginer de faire à 24 ans, après avoir vendu son premier roman, pas celui d'un homme qui avait franchi la quarantaine depuis 2 ans. Quelques coupes de champagne de plus, et l'idée ne lui paraissait plus aussi ridicule. Au contraire, elle lui paraissait en fait presque noble. Une sorte de grande odyssée vers quelque part, une manière de se réhabituer à la réalité après avoir arpenté les terres fictives du roman. Alors il était parti, vaciller comme une vieille ampoule. J'étais sûr que vous alliez mourir. Je veux dire, vraiment sûr. Alors j'ai pris le portefeuille dans votre poche revolver, j'ai regardé votre permis de conduire et j'ai lu le nom. Paul Sheldon. Et je me suis dit, oh, ça doit être une coïncidence. Mais la photo d'identité vous ressemblait aussi. Alors j'ai eu peur, et j'ai dû m'asseoir à la table de la cuisine. J'ai tout d'abord cru que j'allais m'évanouir. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que la photo était peut-être aussi une coïncidence. On a toujours des têtes terribles sur ces photos d'identité. Et c'est alors que j'ai trouvé votre carte de l'association des auteurs, puis une autre, du pen club. Et j'ai su que vous aviez des ennuis. Des ennuis quand la neige a commencé à tomber. Mais longtemps avant cela, il s'était arrêté au bar du Boule des Radeaux, où, moyennant un pourboire de $20, Georges lui avait donné une deuxième bouteille de Dom Pérignon, qu'il avait bu tout en montant dans les Rocheuses par la I-70. Sous un ciel couleur de plomb. Et quelque part à l'est du tunnel Eisenhower, il avait quitté l'autoroute car la chaussée était parfaitement sèche et dégagée, car la tempête s'éloignait vers le sud, car les foutus tunnels le mettaient mal à l'aise. Il avait fait jouer un vieil enregistrement de Bo Diddley sur le lecteur de cassettes, sans jamais brancher une seule fois la radio. Jusqu'à ce qu'il se rende compte, à sentir la Camaro qui glissait de plus en plus, qu'il ne se trouvait pas sous une averse passagère, mais pris dans la tempête elle-même, laquelle ne s'était peut-être pas détournée vers le sud. Qui sait si elle ne fondait pas sur lui ? Il risquait d'avoir de sérieux ennuis, des ennuis aussi sérieux que ceux qu'il avait en ce moment. Mais il était dans cet état d'ivresse où on a l'impression que l'on peut se tirer de n'importe quoi. Si bien qu'au lieu de faire halte à Cana et de chercher asile quelque part, il avait poursuivi sa route. Il se rappelait le ciel de l'après-midi prenant une couleur malsaine de chrome défraîchi. Il se rappelait l'effet du champagne qui s'estompait. Il se rappelait s'être penché en avant pour attraper ses cigarettes sur le tableau de bord. C'est à ce moment-là qu'il avait dérapé une dernière fois. Sa tentative pour redresser la Camaro n'avait fait que rendre les choses encore pires. Grand choc sourd, le ciel et la terre qui changent de place. Il avait crié. En vous entendant, j'ai compris que vous alliez vous en tirer. Les mourants hurlent rarement aussi fort. Ils n'ont pas assez d'énergie. J'ai alors décidé que je vous ferai vivre, moi. J'ai donc été prendre des analgésiques dans ma réserve et je vous en ai donné. Vous êtes endormi. À votre réveil, vous vous êtes remis à crier et je vous en ai donné d'autres. Vous avez eu de la fièvre pendant un certain temps, mais j'en suis aussi venu à bout, avec du Keflex. Vous avez eu aussi une ou deux alertes sérieuses, mais tout ça est terminé maintenant. Promis. Elle se leva. Et le moment est venu de se reposer, Paul. Il vous faut reprendre des forces. Mes jambes me font mal. Oh, je vous crois. Vous aurez votre médicament dans une heure. Non, maintenant, s'il vous plaît. Il avait honte de mendier, mais c'était plus fort que lui. La mer s'était retirée, les deux poteaux déchiquetés se dressaient nus et réels, deux choses inévitables pour lesquelles il n'y avait rien à faire. « Dans une heure. » Ton ferme. Elle se dirigea vers la porte, le bol et la cuillère à la main. « Attendez !» Elle se tourna et lui adressa un regard où se mêlaient sévérité et tendresse, une expression qu'il ne lui plut pas. Absolument pas. Deux semaines que vous m'avez tiré de là. De nouveau, elle eut cet air vague, ennuyé. Il n'allait pas tarder à apprendre qu'elle avait une notion plutôt floue du temps. Quelque chose comme ça, oui. Je suis resté inconscient. Presque tout le temps. Qu'est-ce que j'ai mangé ? Elle l'étudia du regard. « IV » fit-elle laconiquement. « IV » répéta-t-il. Elle prit sa surprise pour de l'ignorance. « Je vous ai nourri par intraveineuse, si vous préférez, avec des tubes. C'est ce qui explique les marques sur vos bras. » Elle le regarda soudain avec une expression à la fois neutre et songeuse. « Vous me devez la vie, Paul. J'espère que vous vous en souviendrez. J'espère que vous ne le perdrez jamais de vue. » Elle sortit sur ces mots. L'heure s'écoula. D'une manière ou d'une autre, elle finit par passer. Il gisait dans le lit, en sueur et frissonnant en même temps. D'une autre pièce lui parvinrent les sons d'une radio. Et il reconnut bientôt les disques de jockey de WKRP, cette station de cinglés délirants de Cincinnati. Ensuite s'éleva la voix d'un annonceur proclamant les mérites des couteaux Jinsu et donnant un numéro d'appel gratuit. Puis il informa les auditeurs du Colorado, qui salivaient d'envie à l'idée d'un bon jeu de couteaux Jinsu, que les téléphonistes les attendaient de pied ferme. Paul Sheldon attendait aussi. Mais pas de pied ferme. Elle réapparut rapidement, deux gélules et un verre d'eau à la main, dès que la pendule de l'autre pièce eut sonné 8 coups. Il se souleva fébrilement sur les coudes pendant qu'elle s'asseyait sur le lit. J'ai finalement eu votre nouveau livre, lui dit-elle. Un glaçon teinté dans le verre, un bruit qui le rendait fou. Misery's Child, je l'aime beaucoup. C'est aussi bon que tout le reste. Meilleur même. C'est le plus beau. Merci, réussit-il à dire. Il sentait la transpiration qui jaillissait de son front. S'il vous plaît, mes jambes, ça me fait très mal. Je savais qu'elle épouserait Yann, murmura-t-elle avec un sourire rêveur. Et je crois que finalement Geoffrey et Yann redeviendront amis comme avant, n'est-ce pas ? Puis, précipitamment, elle ajouta « Non, ne dites rien. Je veux le découvrir toute seule. Je le fais durer. J'ai l'impression que le temps n'en finit pas avant le volume suivant. » La douleur envoyait des élancements dans ses jambes et l'enserrait d'un cercle de fer à hauteur de laine. Il avait exploré du doigt cette région. Son bassin lui avait semblé intact, mais il paraissait bizarrement disposé, comme tordu. En dessous des genoux, il avait l'impression de ne rien avoir d'intact. Il ne voulait pas regarder. Il voyait les zigzags que faisaient les draps, et ça lui suffisait. « Je vous en prie, mademoiselle Wilkes, j'ai mal... Appelez-moi Annie, comme tous mes amis. » Elle lui tendit le verre. Il était frais et couvert de buée. Les gélules dans sa main étaient la marée montante. Elle était la lune. Et elle avait soulevé les flots qui viendraient recouvrir les poteaux. Elle approcha les gélules de sa bouche, qu'il ouvrit immédiatement, et sa main se retira. « J'ai pris la liberté de regarder dans votre petit sac. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas ?»« Non, bien sûr que non, ce médicament... » Les gouttes de sueur sur son front lui paraissaient tour à tour brûlantes et glaciales. Allait-il se mettre à hurler ? Il en avait l'impression. « J'y ai trouvé un manuscrit, » reprit-elle. Elle tenait les gélules dans sa main droite qu'elle inclina lentement. Elles tombèrent dans sa main gauche. Des yeux, elle les suivit. « Ça s'appelle « Fast Cars ». J'ai bien compris que ce n'était pas une autre histoire de misérie. » Elle lui jeta un léger regard de désapprobation. Désapprobation. Comme la première fois, mêlée d'amour. Un regard maternel. Il n'y avait pas de voiture au XIXe siècle, rapide ou autre. Sa petite plaisanterie la fit pouffer. J'ai aussi pris la liberté de le parcourir. Vous ne m'en voulez pas, hein ? Je vous en prie, gémit-il. « Non, je vous en prie. » Sa main gauche s'éleva et s'inclina. Les gélules roulèrent, hésitèrent, puis dégringolèrent dans sa main droite avec un minuscule cliquetis. « Et si je le lis ? Est-ce que cela vous est égal que je le lise ? » ?»« Bien sûr. » Il avait les os en miettes et ses jambes étaient lardées de tessons de verre effilé. « Au contraire !» réussit-il à dire avec ce qu'il espéra être un sourire. « Au contraire, parce que je ne me permettrai jamais de faire une chose pareille sans votre permission, » reprit-elle du ton le plus sérieux. « Je vous respecte trop pour cela. En fait, Paul, je vous aime. » Elle s'empourpra soudain de manière inquiétante. L'une des gélules tomba de sa main et atterrit sur le couvre-lit. Paul voulut s'en emparer, mais elle fut plus rapide. Il poussa un gémissement, mais elle ne le remarqua pas. Après avoir repris la gélule, elle retomba dans le vague, le regard perdu vers la fenêtre. « Votre esprit, dit-elle, votre créativité, c'est tout ce que je veux dire. » Au désespoir, et parce que c'était la première chose qui lui venait à l'esprit, il marmonna. « Je sais, vous êtes mon admiratrice numéro un. » Elle ne vit pas que se réchauffer cette fois. Elle parut s'illuminer. « C'est ça !» s'exclama-t-elle. « Exactement ça !» Et vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je le lise dans cet esprit, n'est-ce pas? Dans un état d'esprit d'admiratrice aimante. Même si je n'ai pas autant aimé les autres romans que ceux de la série des Miséries.
Non, coassa-t-il, fermant les yeux. Non, prenez les pages et faites en des cocottes en papier si vous voulez, mais s'il vous plaît, je crève, moi.
Vous êtes bon, fit-elle doucement. Je savais que vous seriez comme ça. Rien qu'à lire vos livres, je le savais. Un homme qui a inventé Misery Chasten, qui a pu lui donner vie, ne pouvait pas être autrement.
Et soudain, elle enfonça les doigts dans sa bouche. Geste d'une intimité choquante, ignoblement bienvenue. Il aspira les gélules et les avala avant même d'avoir pu porter à sa bouche le verre que sa main faisait trembler et déborder.
Tout à fait comme un bébé, dit-elle. Mais il ne put voir son expression car il avait toujours les yeux fermés et sentait maintenant le picotement salé des larmes.
Mais bon, il y a tant de choses que je voudrais vous demander, tant de choses que je voudrais savoir.
Les ressorts grincèrent quand elle se releva.
Nous allons être très heureux, ici, dit-elle. Et en dépit du saisissement d'horreur qui lui fit bondir le cœur, Paul continua de garder les yeux clos. Il dérivait. La marée montait et il dérivait. Dans l'autre pièce, la télé marcha pendant un moment, puis s'arrêta. La pendule sonnait de temps en temps. Il voulut compter les coups, mais il se perdit en chemin. IV. Par des tubes. C'est pour cela que vous avez des marques sur le bras. Il se redressa sur un coude, chercha la lampe de chevet à tâtons et finit par la trouver. Il alluma. Il examina ses bras et vit, dans le creux des coudes, des taches violettes et ocres qui se superposaient, avec un trou rempli de sang noir au milieu de chacune. Il s'étendit de nouveau, les yeux au plafond, écoutant le vent. Il se trouvait près du sommet du col, de la ligne de partage des eaux, au cœur de l'hiver, en compagnie d'une femme qui n'était pas très bien dans sa tête, une femme qu'il avait nourrie par intraveineuse pendant qu'il était inconscient, une femme qui disposait apparemment d'une inépuisable réserve de médicaments, une femme qui n'avait dit à personne qu'il avait échoué ici. Ces détails étaient importants, mais il se rendit compte que quelque chose le devenait encore plus. La marée descendante qui s'amorçait. Il commença à tendre l'oreille vers la sonnerie du réveil à l'étage. Elle n'allait pourtant pas se déclencher tout de suite. Mais il était temps pour lui de se mettre à l'attendre. Elle était cinglée, mais il avait besoin d'elle.
« Oh, tu parles d'un pétrin, » pensa-t-il,
les yeux toujours tournés vers le plafond qu'il ne voyait pas, tandis que des gouttelettes de sueur perlaient de nouveau à son front.